C'est la deuxième heure du 1234e Sweet Home Chicago. Et en deuxième heure, l'invité de la semaine fort ballon sera Quentin Winter. Après deux singles avec son band le Winter Blues Band, il sort ce mois-ci un tout premier album intitulé Tale of a Lonely Boy en compagnie de Cyril Babin à la basse et Sébastien Jonker à la batterie, rejoint par Mathieu Debordes au clavier, Rhodes et B3. Une sortie d'album accompagnée par l'incroyable clip du titre See the Life on the Bright Side, réalisé par Lucas Brunto, assisté de Gladys Rivasso. À voir absolument. Nous parlerons de l'actualité de ce jeune groupe qui émerge depuis les Charentes pour s'imposer tranquillement dans le paysage blues français. Son univers blues rock est véritablement à découvrir, car d'autres influences moins marquées mais tout aussi intéressantes sont audibles au travers des 15 compositions originales de cet excellent album. Une interview rythmée, passionnante, donnée par un jeune artiste travailleur acharné qui se nourrit des sons de ses aînés que sont Stevie Ray Vaughan et Johnny Winter par exemple, de la scène et de l'amour de ses fans également. Quentin Winter nous offre un travail bien fait, original, dont la signature affirmée montre déjà une solide personnalité ancrée dans une certaine culture sans relier les apports d'autres univers. Quentin Winter est un fabuleux artiste à découvrir. Allons-y. Je suis au téléphone avec Quentin Winter. Salut Quentin.
Salut Marc.
Quentin Winter, tu es né en 1986 à Rochefort en Charente-Maritime. Tu es guitariste, chanteur, mais également auteur, compositeur, interprète de blues et peut-être plus particulièrement de blues rock. Tu te produis seul ou à plusieurs ou en trio, même en quartet actuellement, comme en témoigne ton dernier album, tout fraîchement intitulé Tale of a Lonely Boy. Mais tout d'abord, Quentin, est-ce que tu peux évoquer avec nous ton initiation et les débuts de ton parcours musical et puis le fait que tu as grandi dans une famille mélomane et musicienne, hein?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé. Ma mère me faisait faire du piano avec moi et mes frangins vers, je sais pas, moi j'avais 7 ou 10, entre 7 et 10 ans, on va dire. Et je sais que j'aimais pas particulièrement lire les partitions et tout ça, mais par contre j'aimais bien la sensation du toucher du piano, et il y avait plein de sonorités que je faisais, donc des fois, au lieu d'aller travailler mon morceau de piano, je mettais juste derrière le clavier, et puis je faisais tourner des enchaînements de notes, et puis je me rappelle qu'il y en avait certains qui me touchaient particulièrement. Ouais. Donc, voilà. Après j'ai un peu abandonné quand j'ai arrêté, parce que l'adolescence est arrivée, et puis je faisais beaucoup de trucs d'ado, quoi, du roller, du vélo, j'allais voir les copains, les copines. Et puis après, en grandissant, je suis tombé sur une vieille guitare chez ma mère, et puis j'ai commencé à poser mes doigts dessus. Et la sensation m'a plu aussi. C'était encore une fois, c'était de la sensation, du toucher, avant le son. Et puis voilà, je continue.
C'est dans ton initiation à la musique. Donc la guitare, c'était quel type de guitare, acoustique, électrique ?
Et ben, c'était une vieille guitare à cordes nylon qui n'avait même pas son octave entier, en fait, parce que de la case, elle jouait du pied de tête jusqu'à la case 10. J'arrivais même pas à la case 12.
Ah ouais, il y avait quand même toutes les cordes.
Il y avait toutes les cordes, qui étaient dans un état déplorable d'ailleurs, mais bon, moi je me rendais pas compte, j'avais aucune expérience là-dedans. Ouais. Mais c'était suffisant pour faire les accords de plage, comme on dit à la guitare. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est hyper important dans la vie d'un guitariste, savoir les accords de plage. Mais ça me permettait au moins de pouvoir jouer ça, et puis de commencer à essayer de retrouver un peu à l'oreille les premiers accords des chansons que j'écoutais à l'époque.
Et c'était quoi alors les musiques que t'écoutais étant plus jeune? Déjà du blues rock, c'était toutes sortes de choses?
Pas particulièrement. Je sais que le premier morceau qui m'a subjugué, c'était Nothing Else Matters de Metallica. Nothing Else Matters de Metallica, parce qu'il y a une petite partie, il y a une grosse partie, c'est une balade en fait, hein, c'est une balade de Metallica, et puis qui reste accessible la guitare, on va dire, pour les débutants. Donc il y avait ça, et puis évidemment l'incontournable Stairway to Heaven, hein, de Led Zeppelin.
Ah oui.
Et puis après, des petits trucs à la guitare acoustique de l'époque, la guitare en cordes nylon, les petits morceaux de trio qui n'étaient pas forcément très... les rythmiques étaient accessibles également. Donc ouais, vous voyez, les petites choses comme ça. Mais après avoir découvert les gammes pentatoniques et puis être tombé sur l'un des morceaux de blues rock qui m'ont fait découvrir ce style, c'est parti, j'ai découvert les gammes pentatoniques et les grilles de blues. Et là j'ai sombré dedans tel...
Alors c'était peut-être Stevie Ray Vaughan, je sais pas.
Pas tout de suite, mais c'était l'un des premiers, on va dire. En fait, dans la petite anecdote, sur l'ordinateur familial, il y avait quelqu'un qui s'était amusé à déposer des morceaux de musique. Et à l'époque, c'était des morceaux qui étaient téléchargés en peer-to-peer. Et sur le titre, il y avait marqué Eric Clapton, /BB King, /Santana, plein de guitaristes comme ça, dont Stevie Ray Vaughan dans le titre. J'ai écouté ce morceau et là, c'était un shuffle blues rock que j'ai vraiment adoré tout de suite. En plus de ça, dans ce morceau-là, il y avait une transition qui passait un petit peu plus tout ce qui était un peu musique cubaine, tout ça, donc mortel. Et en fait, par la suite, j'ai découvert que c'était un morceau de Rich Walikis qui s'appelle Traffic Jam.
Mais oui, tu nous avais parlé d'ailleurs de Rich Walikis, on s'en souvient, dans le 34e épisode de My Rock Yours. Tu avais choisi Alien on Farm, d'ailleurs, c'était un truc de tout début du siècle, je crois, 2001. D'ailleurs, si tu devais refaire un My Rock Yours et si tu devais choisir autre chose que Alien on Farm, tu aurais choisi quel autre artiste, Quentin ?
J'en ai un qui me vient en tête, on parlait de Metallica, il y avait un morceau de Metallica, un instrumental qui s'appelle Orion. Que j'ai écouté énormément quand j'étais plus jeune également, et c'est un morceau instrumental qui se développait, tu vois, à l'époque sur le morceau d'Alien on Farm, je te disais que j'aimais bien ce morceau parce qu'il évoluait, en fait, c'était pas un morceau long pour faire un morceau long, c'est un morceau qui évoluait, et j'ai retrouvé ça également dans ce morceau de Metallica qui s'appelle Orion. Voilà, il y a différents passages, il y a différentes émotions. et c'est génial, voilà, ça me transporte.
Quentin Winter, pour en revenir à toi précisément, c'est vers l'âge de 29 ans que tu as décidé de tenter de vivre de ta musique. Est-ce que c'est parce que mener une autre carrière professionnelle de front était devenu impossible, ou est-ce que c'était vraiment un choix délibéré de te dire il faut que je me lance, quoi?
Bah, les deux, mon capitaine. En fait, 29 ans, j'allais devenir papa, voilà. Et je venais de faire 10 ans d'usine, et je faisais énormément de musique à côté de l'usine, à tel point que des fois je faisais même du solfège à l'usine. Il m'a valu quelques jours de mise à pied d'ailleurs. Et donc le fait de devenir papa, je me suis dit, moi ça me plaît plus de travailler à l'usine, et je voudrais montrer à ma fille que dans la vie il faut aussi faire des choses qui nous plaisent pour une vie riche et intéressante et avoir des choses à raconter. Et du coup j'ai négocié une rupture conventionnelle, et puis j'ai pu me former dans la foulée en partant à Bordeaux.
Yes.
Pour ne faire que ça.
Et aussi peut-être dans le but de se dire, à 65 ans, tiens, c'est con, j'aurais pu être musicien professionnel, mais c'est plus la peine.
Il y a un peu de ça, et ce qui est rigolo, c'est que dans mon parcours, j'ai croisé pas mal de personnes dans ces alentours-là, et qui me parlaient de manière assez émue en me disant qu'ils auraient voulu faire cette transition-là. Effectivement, c'était très compliqué, ça l'est encore, mais pour rien au monde, je regrette. Chaque matin, je ne pense pas un seul instant à l'usine, mais par contre, je pense tout de suite aux envies que j'ai en tête, aux sonorités que j'ai en tête, et je repense souvent à ces personnes qui me disent, moi j'aurais bien voulu faire comme tu as fait. Voilà.
Quentin Winter, les partitions, le solfège, c'était pas ton truc au début, mais j'ai cru comprendre que tu y étais venu par la suite. C'est un passage obligé?
Je pense que c'est utile. Il faut savoir aussi de quoi on parle, en fait. Je pense que c'est une langue à part entière, la musique. Donc, il y a beaucoup de transmission orale. Moi, je pratique pas vraiment énormément la lecture, l'écriture, tout ça. Maintenant, s'il faut le faire, je sais le faire. Je prendrai mon temps et puis et je ferai certainement des fautes d'orthographe, mais j'arriverai quand même à écrire et à me faire comprendre. Mais j'ai la chance de travailler avec des gens qui comprennent ce que je dis, puis qui voient la direction dans laquelle je veux aller.
Oui.
Donc du coup, ça aide aussi à ne pas avoir à écrire.
Ça, c'est important. Tu évoques les musiciens qui t'accompagnent. Depuis 2018, il y a Cyril Babin à la basse et Sébastien Jonker à la batterie qui t'accompagnent. Ouais. Comment est-ce que vous êtes connus?
J'ai fait 2 années au SIAM de Bordeaux, de 2016 à 2018. Après avoir pris ma formation, en revenant en Charente-Maritime, je me suis dit, j'ai énormément appris en jam. J'aimerais bien monter une jam vers chez moi pour rendre un petit peu ce que j'ai appris, puis pour continuer à jouer, rencontrer des mecs et tout ça. Et je suis tombé, on m'a recommandé de contacter Cyril, qui m'a conseillé Sébastien, et du coup, ça s'est un peu monté comme ça. À la base, c'était sur une jam. Puis finalement, on a sympathisé, puis on s'est rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus niveau musique. Et du coup, on a essayé de monter notre première version de Winter Blues Band, où on faisait beaucoup de reprises de standards, forcément. Et par la suite, j'ai commencé à écrire. Voilà, tout ce qui était mis en musique, on a toujours fait ça ensemble. Ça a pris comme ça.
Et on va en arriver à ta discographie tout bientôt, mais j'ai une question à propos de concerts et puis des quelques premières parties que tu as pu faire. Je voulais savoir ton ressenti par rapport au fait d'avoir ouvert pour des gens comme Laura Cox ou Paul Person ou Melvin Taylor, Mike Wheeler, enfin voilà, pour certains des vedettes, des gens reconnus. Paul Person notamment, je crois que tu as une petite anecdote que tu racontes dans une des vidéos que ton frère a tournées.
Ouais, exactement, Paul Person. L'incident un peu qu'on fait délicat, c'était juste après le Covid, je crois. Donc tout le monde était un petit peu frileux pour éviter de trop tous se rencontrer, etc., etc. Mais en attendant, j'ai quand même pu aller voir Paul dans sa loge, qui m'a reçu avec grand plaisir, avec mon frère d'ailleurs. Et du coup, on lui a présenté le premier EP que j'avais sorti à l'époque. Il m'a fait des compliments, il m'a dit qu'il a bien aimé mon jeu en slide, etc. Donc ça m'a beaucoup touché. Et par la suite, il m'a raconté quelques petites anecdotes qu'il a vécues avec Johnny Winter, parce que j'ai piqué le nom de famille de Johnny Winter.
Mais oui.
Ils ne le savent pas encore. Et du coup, il m'a raconté quelques anecdotes sur Johnny Winter.
Non, on pensait que c'était Ophélie Winter, mais c'est maintenant que tu nous dis que c'est Johnny, on te croit.
Mais c'est ma cousine.
Et oui, Paul Person, un garçon à qui tu appuies sur le bouton et voilà, toutes les anecdotes arrivent. C'est quelqu'un de très ouvert et franchement d'éminemment sympathique. Et voilà, avec une belle, belle expérience.
Ouais, exactement. Et puis, il est, comme on le voit dans les reportages et les interviews, il est très calme et il est très aimable. Moi, j'ai vraiment un très bon souvenir de cette rencontre. Et puis, je serais ravi de recommencer d'ailleurs. Et même les musiciens qui jouaient avec lui, ils m'ont encouragé. C'est parce qu'ils ont bien vu que c'était la première fois que je jouais devant autant de monde, donc il y avait 400, un peu plus de 400 personnes, donc moi j'avais complètement le trac, quoi. Et ils m'ont tous encouragé et tout, c'était vraiment génial.
Alors les autres premières parties, Melvin Taylor, Mike Wheeler, Laura Koch, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés ou que j'avais pas en ma possession dans mes sources. Est-ce qu'il y a comme ça des grands souvenirs déjà depuis le début de ta toute jeune carrière, Quentin ?
Oui, un petit peu tout ça, et je repense aussi régulièrement à Philippe Ménard qui fait du One Man.
Ah oui.
Pour moi, il est vraiment la référence. Et j'ai eu la chance d'aller avec eux sur l'île-lieu pour un concert, donc j'ai fait la première partie de Philippe Ménard. Donc on était tous les deux en One Man Band, et c'était vraiment déjà une expérience humaine géniale, parce que Brigitte et Philippe, on rigolait parce que ça nous faisait un petit peu tes papa-maman qui emmènent leur fiston à l'île-lieu, quoi. Donc ça nous a fait rire. Mais en tout cas, la salle était mortelle, le son était super, et puis moi j'ai passé un super moment, et en plus de ça, j'ai pu assister à un autre concert de Philippe, et voilà, respect, quoi.
Avec un petit buff final ?
Et ben, on n'a pas eu l'occasion sur scène, non, hélas.
Ok, alors oui, tu l'évoques, tu joues également en solo, bon, c'était une de tes premières formations, enfin, les deux EP que tu as fait, il y en a un en solo et l'autre en trio, et puis après ces deux EP, tu passes, entre guillemets, à la vitesse supérieure en 2023, tu mets tout en œuvre pour sortir ton premier album, là, qui sort ces jours-ci, en 2024. C'est important pour toi de coucher ta musique sur un disque studio particulièrement?
Oui, c'est très important pour moi. Je suis nostalgique du CD. On le voit malheureusement plus trop. Et puis, par exemple, dans les voitures, les ordinateurs, il n'y a plus vraiment de lecteur CD. Je suis un peu nostalgique de ça. Et nostalgique aussi du fait que j'aime bien, quand on me raconte une histoire, du début jusqu'à la fin, quoi, j'aime bien un petit peu le principe du concept album. Et je ne suis pas très playlist comme la musique est consommée aujourd'hui, mais il faut bien aussi s'y accommoder pour les gens qui apprécient. Donc oui, pour moi, c'est important de faire un album parce que ce n'est pas simplement de la musique sur l'album. Il y a tout un travail visuel. D'ailleurs, pour le visuel de l'album, c'est ma sœur Marine qui s'en est occupée avec l'aide de mon frère Lucas et de ma belle-sœur Gladys. Je tiens absolument à remercier ici aussi parce qu'ils ont fait un travail de fou. J'y connais absolument rien là-dedans et à chaque fois qu'ils me proposent un brouillon, je trouvais ça magnifique. Donc grâce à eux, on est arrivé vraiment à quelque chose de fini, d'abouti, en tout cas pour nous. Donc il y a l'objet qui est important, il y a aussi la symbolique, quoi. La symbolique qu'on est tous travaillé à la réussite au fait de sortir cet album-là. Donc le côté graphisme, c'est Lucas qui a fait les photos de l'album, ma sœur Marine qui a fait la mise en jaquette et puis tout l'univers graphisme, et moi j'ai fait la musique là-dedans.
Oui.
Donc c'est symbolique.
Lucas, c'est ton frère, c'est également celui qui s'occupe des vidéos, enfin on va parler des clips tout à l'heure parce que c'est très important aussi par rapport à cet album qui démarre justement avec Tom Blinda, un titre qui figurait déjà sur ton EP en trio. Tu sais que l'accroche à l'écoute, ça passe d'abord par la première plage d'un disque, hein, tu évoquais l'ordre des morceaux et peut-être le côté concept album, quelque chose d'important pour toi. Pourquoi ce titre Tom Blinda en entame ? Est-ce que c'est parce qu'il fait partie des plus rodés sur scène ou pour d'autres raisons ?
Parce que je trouve que il est assez percutant pour nous identifier tout de suite. Évidemment, quand on se revendique blues rock, on entend plein de stéréotypes tout de suite. Moi, je me cache pas du tout que mon influence principale, c'est Stevie Ray Vaughan et Johnny Winter, donc très blues rock. J'aime bien ce côté hameçon, accrocheur sur ce morceau-là, en essayant d'y développer quelques petites idées un peu différentes. De plus, oui, avec les années qui sont passées, les morceaux sont plus digérés, parce qu'ils sont énormément joués en live. Donc on a pu y ajouter ça et là des petites améliorations, on va dire, de spontanéité, etc., développer un petit peu la partie de chant.
C'est aussi un morceau que vous jouez à tous vos concerts.
Oui, exactement. Bah, il se trouve qu'on commence aussi en concert avec ce morceau-là.
Voilà.
En fait, pour la petite anecdote, on commence sur les deux premiers morceaux. Moi, ce que j'aime, c'est arriver sur scène, 3-4, on joue, et puis enchaîner directement sur le deuxième morceau pour pouvoir avoir le double effet qui se coule, comme on dit.
Le double effet qui se coule avec Furiosa. Ah. Furiosa qui évoque, lui, immanquablement le blues rock texan un petit peu à la ZZ Top. Hein. Billy Gibbons fait aussi partie de tes influences, outre Johnny Winter et Stevie Ray.
Oui, bien sûr. Le côté rock un petit peu crado, décomplexé, moi je suis sur fan de ça, quoi. Plus le jeu bottleneck également, plus la prestance, plus les riffs qui sont tranchants, quoi. Donc bien évidemment, Furiosa, c'est aussi un hommage à ZZ Top, quoi.
Tu aimerais le rencontrer, Billy Gibbons, ça a été fait déjà ou pas ?
Malheureusement non, ça n'a pas jamais été fait, mais ouais, j'aimerais énormément le rencontrer, bien évidemment.
Alors on va rêver, faire sa première partie, ça ferait partie de ton...
Ce serait mortel.
Top 3 des rêves, c'est ça? Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah,
parce
ouais,
que Stevie et Johnny, c'est plus possible, mais Billy, ouais. Il est toujours là.
Ouais, exactement. Et ben, pourquoi pas, ouais, ça sera avec grand plaisir.
Alors, il y a un autre titre de ton album qui s'appelle The Weight of Things, le poids des choses, hein, qui évoque évidemment Stevie Ray Vaughan cette fois-ci. À quel point est-ce que Stevie fait partie de la manière de façonner ton jeu de guitare? Et puis, en quoi est-ce que tu as retravaillé ce morceau qui figurait sur ton EP en solo, justement?
Alors, en quoi Stevie? Bah parce que c'est lui qui m'a... C'est vraiment en le découvrant et en découvrant sa discographie que moi, j'ai vraiment... Je le dis à chaque fois avec ce terme-là, mais j'ai vraiment été saisi. Hein.
Ouais.
J'ai vraiment été saisi et je me suis retrouvé dans chaque combinateur, dans chaque partie de chant. Pour moi, c'est vraiment du... Bah, il n'y a pas plus profond et viscéral que sa musique pour moi, du moins dans le côté blues rock, parce que chaque note qu'il fait aussi bien en solo qu'en rythmique, c'est pour moi c'est tout dedans, quoi, et c'est voilà, je peux pas m'empêcher de penser à lui tous les jours, quoi, dans n'importe quel moment ou quand je joue de la guitare, etc. Même si après je pars sur autre chose, j'ai toujours une petite pensée à sa manière de jouer, à sa manière d'aborder un morceau, quoi. Et en quoi le Way of Things est différent? Bah du coup sur l'EP solo, il était en one man band, il était un peu fébrile. Moi j'ai toujours ressenti un peu fébrile sur l'EP solo, en même temps c'était la première fois que je rentrais en studio. Là j'ai pu le mettre en musique en trio et on a pu aller justement où je l'avais, on a pu aller en trio aussi loin que ce que j'avais en tête lorsque je l'ai créé.
Ouais.
Je ne pouvais pas faire à l'époque.
C'est-à-dire que peut-être en solo, quand tu dis fébrile, ça peut vouloir dire aussi pas la possibilité d'aller aussi loin que tu le voulais. Et c'est grâce à ton trio que finalement tu arrives à sublimer ce morceau.
Et ben exactement. Et c'est pour ça que je dis aussi que j'ai énormément de chance de tomber sur Cyril et Sébastien, qui ont beaucoup d'expérience aussi, et une culture qui se rapproche pas mal de la mienne dans certains aspects. Et donc du coup, oui, effectivement, j'ai pu aller le plus loin possible, en tout cas là-dessus, quoi.
Alors, il y a un autre titre dans ton album, Quentin, qui s'appelle Lazy Blue Line, qui démarre avec un riff de slide. Et puis, tu nous fais entrer dans une rythmique un peu basse-tringue, le son de ta voix est volontairement voilé, il y a un changement d'atmosphère à nouveau. The blue of my generation, your blue boy. Ha! Persecuted by highs, and I see no escape from me. Je voulais savoir justement, parce que sur l'écoute de la première partie de l'album, il y a quand même pas mal de changements d'atmosphère. À quel point l'ordre des titres a été travaillé dans ce disque?
Alors il a été travaillé dans le sens où il y a certains morceaux que j'entendais accrocher les uns aux autres. Voilà. D'ailleurs ça s'entend plus particulièrement sur la version CD, parce que c'est là où j'ai pu aller plus loin dans l'enchaînement des morceaux. Et donc comme je t'expliquais, j'aimais bien l'enchaînement de Jamming Down Furiosa, parce que voilà, c'est gauche-droite, quoi. C'est pour moi, en rigolant, c'est une c'est une double claque, quoi. C'est une claque à droite, une claque à gauche. Et puis après, on dit bonjour. Et c'est un peu pour montrer quel bois on chauffe, en fait, si tu veux.
Ouais, ouais.
Pour nous aussi, nous conditionner, nous dire, bon, ok, on est là, on y va, là, bim, bam, boum. Et ensuite, on développe. Alors, souvent, je fais les allusions au grand 8 quand je parle d'album, parce que le grand 8, c'est jamais plat et linéaire. Hein. Ça monte, ça se stabilise et ça redescend un coup, etc. Et moi, je visualise un peu, enfin, je visualise mon album comme ça. C'est pour ça que je reparle encore des concepts d'albums, parce que souvent, il y a un petit peu cette
progression.
Cette image, cette progression, exactement.
Ouais.
Autour de la conception d'un album, c'est pas juste, ben, je mets les morceaux à la suite et puis on verra bien. Je pense que l'ordre des morceaux est hyper important, ne serait-ce que pour suivre des changements de tonalité qui sont cohérents, que ça fasse pas bizarre quand on passe d'un morceau à un autre, mais en même temps, pas forcément mettre toujours les mêmes types de rythmiques ou même vitesse les unes à la suite des autres, etc., etc.
Ouais. Alors, si on continue à éplucher ton album, il y a également l'intro guitare de All the Way, qui est un modèle du genre. Enfin, c'est mon humble avis. Et puis également celle de See the Life on the Bright Side, donc qui donne bien le ton, je trouve. Et ça m'amène à la question suivante, Quentin. Est-ce que le riff de départ, comme c'est souvent le cas dans tes titres, le riff de guitare, est-ce que c'est le point de départ de la création de ces titres ?
Eh ben, tu vas peut-être pas me croire, mais pas du tout.
Non ?
Pas du tout. En fait, je commence... ce que j'explique souvent, c'est que quand j'ai une idée de morceau en tête ou une thématique en tête, je prends un papier, un crayon et une guitare acoustique et je couche toutes les paroles que j'ai en tête. Donc souvent, des fois, ça peut arriver que ce soit que des rythmiques de mots anglais, par exemple. Et après, une fois que j'ai couché tout ce que j'ai à dire, je commence à les mettre en forme. Dans un premier temps, j'essaie de tout chanter sur une grille de 12 mesures en blues, la bonne vieille grille en 12. Et après, je m'amuse à la modifier et je m'amuse à la triturer, à la découper et la remettre un petit peu dans tous les sens. Et après, les riffs viennent un peu en fonction de comment j'installe le chant sur cette fameuse nouvelle grille que je viens d'inventer dans la création de ce morceau-là.
Et le riff arrive après, donc voilà.
Et oui, souvent le riff arrive après. Oui.
Par rapport à la formation du groupe, on a compris que donc ton groupe était un trio. Quant à Winter Band ou quant à Winter Blues Band, qu'est-ce qu'il faut dire d'ailleurs ?
Ce qu'il faut dire, c'est Winter Blues Band.
Winter Blues Band, voilà. Alors, à la place de Stevie Ray Vaughan, c'est Quentin Winter. À la place de Tommy Shannon, bien sûr, c'est ton bassiste. Cyril Baba et Sébastien Jonker prend la place de Chris Letton. Et tu as trouvé un Riz Winans à toi, tu as trouvé Mathieu Desbordes qui intervient au clavier sur certains titres. À quel moment est-ce que tu as ressenti le besoin d'un quatrième musicien comme Stevie Ray Vaughan ? Comment s'est opérée la rencontre avec ce pianiste-là et comment tu as ressenti ce besoin d'être quatre finalement ?
Ben en fait, déjà, premièrement, dans cet album-là, je voulais pas prendre le parti de les gens qui achètent le CD et repartent avec la version du live. J'avais pas forcément envie de ça pour un premier album. Je voulais agrandir le cercle et je voulais plein d'invités. Déjà. Alors j'en ai eu un paquet, j'en ai eu pas mal, mais j'aurais voulu en mettre plus, mais après il faut que ça reste cohérent encore une fois. J'ai souvent dit que j'aimerais bien par la suite élargir la formation Winter Blues Band. Dans un premier temps, je m'étais dit que j'aurais voulu un deuxième guitariste, mais en même temps, un orgue avec un Rhodes, c'est quand même sacrément incroyable.
Ouais.
Et c'est Cyril qui connaissait bien Mathieu et qui nous a mis en contact. Et puis voilà, Mathieu a collaboré avec nous avec le plus grand plaisir et je le remercie parce que c'est quand même un sacré tueur.
Donc c'est Cyril qui t'a trouvé le batteur et le clavier, en fait. Hein.
Ah, et oui.
Alors, si on continue à écouter cet album, dont le titre, rappelons-le, est Tale of a Lonely Boy, hein, quant à Winter Blues Band, on retrouve une guitare acoustique, notamment dans I Remember, comme dans l'IP Solo. Tu continues à jouer acoustique au quotidien ?
Oui, exactement. Et là, tu vois, avant que tu ne m'appelles, j'étais en train d'écouter un groupe qui s'appelle Les Doigts de l'Homme, un groupe de jazz manouche. Et juste avant ça, j'étais en train de jouer sur ma guitare acoustique.
C'est quand même pas anodin, parce que c'est ce que m'avait dit une fois un certain Bernard Allison. Il m'a dit, si tu sais jouer de la guitare acoustique, tu sauras jouer de la guitare électrique, hein, et non pas le contraire, parce que pour faire la corde, il n'y a rien de tel, finalement. Hein.
Exactement, et puis ce que moi je trouve, en tout cas dans l'approche de la guitare acoustique, c'est que tu peux pas tricher. Si tu attaques mal ta note, si tu pinces mal tes cordes, si ta guitare elle est mal réglée, et ben ça s'entend tout de suite. Et alors, du coup, comme t'as pas aucun artifice, ça t'oblige à être un peu plus perfectionné sur ton son. Et puis en plus, c'est un instrument qui joue sans aucune amplification électrique. Donc ça veut dire que c'est toi qui fais le son. Moi j'aime beaucoup, je me retrouve énormément dans l'approche de la guitare acoustique, puisque c'est un son qui vient de toi finalement.
Ben, l'intensité du son, tu l'as créé avec ta main droite principalement.
Exactement, et puis t'as mille façons d'attaquer une note. Avec ta tenue de médiator, t'as mille façons de faire une note. Mmh. Et tu peux vraiment aller le plus loin possible. Ça, pour le coup, c'est ce qui me tient énormément à cœur. J'aime aussi énormément l'électrique. Hein. Je peux pas comparer, parce qu'il y a ces deux approches différentes, selon moi.
Quelles sont les guitares avec lesquelles tu te produis le plus souvent, que ce soit pour enregistrer ou pour être sur une scène en électrique? Ta guitare de prédilection, c'est quoi?
J'ai ma chouchoute, c'est une Jacobacci Studio 3 des années 70, qui m'a été offerte par un de mes tontons. Et alors moi, sur le projet en trio, sur Windsor Blues Band, j'utilise 5 guitares. Alors, c'est pas que pour la frime, parce que bon, je suis quand même guitariste, hein, donc il faut que je frime un peu.
Non, mais c'est important, c'est important d'avoir plusieurs instruments, oui. Parce que on a précisé tout à l'heure que les atmosphères des morceaux est très, très différents. Et depuis le début de cette interview, avec les extraits qu'on a écoutés, on a pu s'en rendre compte. Alors, quels sont les 5 grattes que tu as à ta disposition?
Eh bien, alors, en fait, j'utilise 5 guitares. J'ai 2 guitares principales en accordage standard et les 3 autres qui sont accordées différemment. Alors du coup j'utilise une Fender Stratocaster et une Jacobacci Studio 3, donc ça c'est mes 2 guitares principales en accordage standard. Ouais. Sinon j'utilise également une Pivi demi-caisse que j'ai un peu bricolée, que j'utilise exclusivement en open de sol et que tu entends dans All the Way.
Pour faire la slide.
Ouais, All the Way je l'ai passé en La, mais sinon elle est en open de sol. J'ai une espèce de Strat noire que j'avais récupérée dans un coin d'une vieille baraque. C'est une guitare de mauvaise qualité, mais j'en suis attaché et j'ai réussi à la faire remettre en état pour pouvoir m'en servir. C'est une guitare qui est en open de Ré, voilà, avec laquelle je joue Lazy Blue Line et See the Life.
C'est une Squier ou une Fender ou
Oh non, même pas. Ça devait être c'est l'équivalent d'une une Stag ou une XP ou des trucs comme ça, tu vois.
D'accord,
c'est vraiment des guitares à moins de 100 euros.
Ouais.
Avec un manche qui est complètement tordu et qui est injouable autrement qu'en slide, si tu veux.
Ouais.
Mais c'est ce qui me plaît chez elle, quoi. C'est son imperfection et puis les pistons de son, quoi. Et la petite dernière est un peu spéciale, c'est une 12 cordes électrique. C'est la première fois que je me fais faire une guitare sur mesure, après 20 ans de guitare, par un artisan qui s'appelle Thomas Meuret, qui habite à G, en Charente-Maritime, vers chez moi.
D'accord.
Qui entretient toutes mes guitares et qui a pu me faire ma première 12 cordes électrique, parce que j'ai une grande affection pour les guitares à 12 cordes. Le problème, c'est qu'en trio, celle que j'utilisais était électroacoustique et était difficilement jouable à sa pleine puissance.
Avec basse batterie derrière, oui, j'imagine. Ouais.
Exactement. Mmh. Donc là, j'ai plus de facilité à m'en servir, puisqu'elle est faite pour le blues rock électrique, quoi. Et celle-ci, elle est accordée en dadgad. Ré la ré, sol la ré. Un petit hommage à mes années musique traditionnelle. Et
oui, alors dis donc, faut pas se tromper hein, sur ton port de guitare, j'imagine, sur la scène. En fait, je prends laquelle, machin, et ça veut dire peut-être, est-ce que ça interfère sur l'ordre des morceaux? Est-ce que ça t'oblige plus ou moins à suivre la setlist prévue, ou est-ce que tu peux faire des changements comme ça et à ce moment-là, tu t'adaptes en fonction de la guitare que tu vas utiliser?
Ça peut arriver que des fois, j'essaie de grouper deux morceaux, surtout si c'est deux morceaux qui n'ont pas forcément le même univers ou pas forcément la même tonalité, je joue avec la même guitare, j'essaye de les jouer assez proches les uns des autres pour pas avoir 12 000 changements de guitare,
oui.
Parce que ça tue le rythme du concert, en fait. Donc ça, c'est un peu compliqué. Quand on peut arriver aussi à faire une intro basse batterie pendant que moi je fais un changement de guitare, ça peut être aussi une idée utilisée déjà. Maintenant, faut qu'on arrive à... J'aimerais bien arriver à pousser le concept pour encore diminuer ces problèmes de changement de guitare, quoi.
Ouais. Faut trouver un guitar tech, un mec qui va te la poser directement sur les épaules, comme Buddy Guy, par exemple.
c'est très génial. C'est très génial. Après, j'utilise autant de guitares parce que souvent, c'est ce que je dis, en one-man band, déjà, c'est compliqué d'arriver à se renouveler parce que on a vite fait à tourner en rond, puisque le truc, c'est qu'il faut arriver à tout faire, mais on peut pas faire tout correctement. Donc, il faut arriver à trouver des compromis.
Sauf si on s'appelle Philippe Ménard.
Sauf si on on s'appelle Philippe Ménard. Et malheureusement, je m'appelle pas Philippe Ménard. Donc, du coup, j'essaye de me renouveler un petit peu comme ça. Et j'utilise aussi ce concept-là, donc en trio. Parce qu'en trio, c'est pareil. T'as vite fait tourner en rond à faire un trio blues rock qui un petit peu sonne toujours un peu de la même manière. Donc, la première astuce que j'avais trouvée, donc, c'était ces différentes guitares pour faire différentes atmosphères.
D'accord. Voilà. On va évoquer le titre See the Life on the Bright Side qui fait l'objet d'un clip, donc réalisé par Luca Brunotto avec la complicité de l'industrie Vasso. Comment est-ce qu'il a été conçu ce clip? Et en corollaire à cette question-là, Quentin, j'ai envie de te demander, est-ce que l'humour ne cache pas autre chose?
Alors déjà, comment est né ce clip? Luca aime beaucoup les musiques que je propose, alors du coup, je sais qu'il écoute, il écoutait énormément les maquettes, etc. Ça, je le sais. Et il y a des morceaux dans lesquels il se retrouve, et c'est cool parce que c'est aussi l'ambition de cet album-là. Moi, je mets pas de nom, je mets pas de situation précise, enfin trop précise non plus, pour que chacun puisse l'interpréter à sa manière. Et donc, comment est né ce morceau-là, See the Life on the Bright Side? C'était à la base un morceau que j'avais écrit dans l'esprit Popacciulli, quoi. Popacciulli, ouais. Il a écrit des morceaux un peu légers, enfin pas que lui, hein, mais je prenais lui parce que je prends cet exemple-là parce que j'écoutais Popacciulli à l'époque, et je voulais faire un petit morceau léger, mon amour. Je suis content de te voir, Nani, hein, tout ça. Et voilà, donc on l'a mis en musique. Je trouve que Lucas, il a pris le contre-pied de ce texte-là et on a fait sa propre interprétation finalement. Donc je vais pas dévoiler ce qui se passe dans le clip, mais.
Non, parce qu'il faut que les gens regardent. On va mettre le lien d'ailleurs sur la timeline de Sweet Home Chicago sur le Facebook parce qu'il faut que les gens aillent voir. Je me suis demandé si l'humour qui se dégage en fait de cette mise en scène, ça cache quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de plus profond, je ne sais pas.
Bah oui, bien sûr, c'est un peu les apparences, hein, le sourire. Peut cacher énormément de choses.
Ouais.
L'humour peut cacher énormément de choses comme, comme le manque de confiance en soi, etc. etc. Donc oui, évidemment, l'humour peut cacher énormément de choses. C'est plus difficile d'être... Enfin, le côté dramatique de la chose, ça fait appel à des émotions beaucoup plus proches et directes. Que l'humour te permet de garder une certaine distance avec les gens.
Pour les deux premières fois, je l'ai regardé. La première fois, c'était avec un certain détachement et puis bien sûr l'esprit de la découverte. Et puis ensuite, je suis allé regarder d'un petit peu plus près. J'ai trouvé que cinématographiquement parlant, c'était très très bien réalisé. Enfin, en plus, il y a des séquences cut par rapport aussi à l'ordre, à la progression de la musique. On va dire que l'image suit la musique de façon très très précise. Quoi. Ça, c'était un travail de la part de Lucas qui a été vraiment admirable. Je trouve.
Oui, effectivement, il nous a tous cloués, hein, parce que c'est vrai qu'on avait, on a la volonté d'essayer d'emmener le projet Winter Blues Band le plus loin possible, avec nos moyens, nous, bien évidemment.
Oui.
Et on essaye de toujours de se, pas se dépasser. Et Lucas, il a aussi plein d'idées en tête. Lucas, ça fait 15 ans à peu près qu'il est en milieu du cinéma et il est machiniste. Donc il voit un petit peu l'envers des décors, il voit comment ça se passe. Donc il analyse tout, il regarde tout, il analyse tout, il est très fort pour ça.
Et surtout, mais, 15 ans qu'il est dans ce milieu, mais surtout encore plus de temps que ça, qu'il est ton frère, ouais. Et que vous connaissez quand même pas mal, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr. Et Lucas, c'est un artiste également. Donc il faisait déjà des vidéos avec ses potes. Il a toujours aimé mettre en image certaines situations. Donc voilà, faut pas oublier que j'ai la chance de travailler avec Lucas qui est aussi un artiste.
Il te suit apparemment partout. Est-ce que tu dirais de lui que c'est un membre du groupe à part entière?
Ah bah bien sûr, évidemment, sans aucune hésitation. c'est grâce à lui on peut emmener ce projet loin, parce que moi j'ai un peu la fâcheuse tendance à avoir le nez dessus, donc j'arrive pas à prendre suffisamment de recul pour analyser certaines situations. Lucas, il a cette faculté là, c'est de pouvoir mettre sur pause, prendre un temps pour lui et regarder comment ça se trame, qu'est-ce qui se passe, quel levier on peut éventuellement activer, et l'état actuel des choses. Donc évidemment, Lucas, c'est quatrième.
Est-ce qu'il est capable d'avoir la dent dure aussi parfois? Est-ce qu'il peut être sévère avec ce que vous faites par rapport à certains arrangements, par rapport à certains choix artistiques?
Non, parce que moi j'y connais rien à l'image. Donc je me dis, chacun est un peu à sa place dans un sens.
D'accord.
Mais du coup, il n'y a pas besoin d'être exigeant vers la partie de l'autre, parce que de toute manière, Lucas et moi, on a la même détermination.
Oui, et puis vous avez une belle complémentarité, en tout cas.
C'est exactement ça, on est très complémentaire, mais on a la même détermination, ce qui fait que du coup, on n'hésite pas à faire et à refaire, à refaire les choses. J'ai passé, avec Cyril et Sébastien, on a passé énormément de temps à faire une pré-prod de l'album. On a enregistré les morceaux une première fois dans notre côté, dans notre coin, pour tout analyser en profondeur, en détail, le moindre coup de médiateur et la moindre rythmique. Lucas, de son côté, il a passé énormément de temps à faire différents montages, différents types d'essais, et la force de tout ça, c'est que on prend un petit peu d'expérience dans chacun dans notre domaine, toujours avec cette rigueur. Voilà. Donc on a beaucoup de complicité, forcément, on est frères et puis on aime bien déconner. Mais par contre, quand on bosse, quoi.
Quentin Winter, j'aimerais qu'on évoque deux autres titres de cet album. J'aimerais qu'on évoque le titre Underwater, qui est très long, qui fait 12 minutes. Donc près de la moitié a été réalisée par la nature, hein, l'orage, la pluie, des thèmes d'ailleurs, moi j'ai trouvé un équivalent à des thèmes qui étaient déjà présents par exemple chez les Doors dans Riders on the Storm. Quelle a été ton influence majeure pour la réalisation de ce titre en particulier, Quentin ?
Je suis parti d'une rythmique que j'utilisais beaucoup en irlandais. Musique irlandaise à la base. Et ensuite, j'ai eu envie de sortir des grilles en 12 mesures. Voilà. Donc, j'ai cherché autour de ces fameux accords de plage dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important dans la vie d'un guitariste. C'était ma base de départ. Ensuite, quelques sonorités sont apparues. Des sonorités qui me plaisent énormément. Moi, j'aime bien les chromatismes, j'aime bien les demi-tons, j'aime beaucoup les accords diminués. C'est des sonorités assez dramatiques pour certaines et moi, ça me touche.
Ouais.
Et je voulais ce côté progression avec une espèce de grande tension. Quand les accords commencent à monter, je voulais cette espèce de grande tension pour arriver à, ben là, quasiment le dernier morceau de l'album, faut qu'on finisse en feu d'artifice. Ensuite, je voulais aussi un morceau où il y ait plus de chant, mais plus dans l'esprit où je voulais un thème. Je voulais essayer d'installer un thème. Alors, c'est pas particulièrement un thème à proprement, c'est plus une partie de chant, solo, on pourrait dire ça comme ça.
Oui.
Et le dernier élément, je voulais pas que le solo de guitare soit au milieu, comme on peut s'y attendre dans 99% des morceaux de blues rock. Et dans les influences que je pourrais citer pour ce groupe, je pense énormément, après coup d'ailleurs, je pense principalement à Grace de Jeff Buckley. Donc, c'est vrai que j'y ai pensé un peu après.
Ah ouais.
Mais ce morceau de Jeff Buckley qui me, c'est pareil, hein, qui me touche énormément, qui me noue la gorge à chaque écoute, quoi.
Et puis l'album se termine avec la chanson Lulu. D'ailleurs, il pleut toujours dans la chanson. Ça clôt l'album. Ton dans cette chanson au cours de laquelle on renoue avec la clarté du son et puis l'apaisement de la voix. Je voulais savoir, Quentin, est-ce que tu as enregistré la voix après ou c'est tout du live, tout ça?
Je l'ai enregistré après, parce que j'arrivais pas à faire... C'était, en fait, ce morceau-là, sur les petites vidéos du studio que Lucas a réalisé, ce morceau-là, tout au long de la semaine, on l'a repoussé, parce que c'était, je fais le guillemet avec mes mains, c'était un morceau guitare-chant, donc qui nécessite un peu moins de technique matérielle que les autres morceaux. Et alors du coup, à chaque fois, on repoussait. Moi, ça me tient à cœur, parce que c'est un morceau qui parle à ma fille, et je voulais absolument qu'il y soit. Moralité, le vendredi, dernier jour du studio, vendredi, une heure avant de fermer le stud, il nous restait un morceau à faire.
D'accord.
Du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de le faire guitare-chant, on va voir ce que ça va. Et puis en fait, j'arrivais déjà plus à jouer la partie de guitare. Déjà rien que la partie de guitare, j'arrivais plus à la jouer.
Ouais.
J'ai réussi à prendre quelques minutes pour respirer et réussir à rentrer une partie de guitare collée à peu près. Et après, je suis allé dans la cabine de chant et j'ai fait deux essais. Et c'est l'un des deux essais qu'on a gardé, je crois que c'est le deuxième d'ailleurs. Et ça s'est terminé comme ça, quoi, vraiment à la seconde.
Donc le dernier morceau enregistré est également le dernier morceau de l'album.
Oui, exactement.
Quentin Winter, est-ce qu'on peut avoir ta réaction par rapport à l'engouement que la création de ton disque a connu quand tu as sollicité une participation active de tes fans? Il y a eu un financement participatif, hein, comme ça arrive de temps à autre. Quand tu as vu que tu dépassais l'objectif, on a vu tes posts au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Ça a été quoi? Quels étaient tes sentiments?
Moi, déjà, j'en revenais pas trop. Ça, c'est à l'initiative de Lucas, d'ailleurs, le financement participatif, parce que moi, j'y connaissais absolument rien là-dedans. Et lui, du coup, il a pris le temps de creuser le sujet et de nous rassurer par rapport à la démarche. Et moi, j'ai halluciné, clairement, parce que je m'attendais pas à ce que mon projet musical intéresse et enthousiasme autant les gens. Donc j'en revenais pas, et d'ailleurs c'est encore hallucinant de me dire aujourd'hui, et là j'ai les albums devant moi, de me dire que ça, ils sont vivants et ils existent, et on a pu emmener le projet au bout grâce à la participation des gens, et d'avoir autant de confiance comme ça, ça me touche, ça m'émeut, quoi.
Et voilà, là tu vas te préparer une belle facture de la poste, hein, j'imagine, parce qu'il va falloir...
Ça y est,
ça y est, ils sont partis.
Ouais, ça y est, ouais, tout est parti.
Super. Alors voilà, Taylor Lonely Boy qui est sorti officiellement au début du mois d'avril. Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour tirer un bilan, mais quels sont tes souhaits, Quentin, quant à l'accueil que ton disque pourra connaître?
Ce que je veux que les gens me disent dans l'accueil de cet album, c'est « je m'attendais pas à ça ».
Voilà. Ah yes.
Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui commence à en revenir, en fait. C'est les premiers échos que j'ai, c'est « je m'attendais pas à ça ».
Ouais.
D'ailleurs, Lucas le premier, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je veux faire du blues rock, mais je veux pas me cantonner à ce style. Donc c'est pour ça que je développe d'autres univers dans certains morceaux. C'est aussi pour ça que la 12 cordes en Bodyguard, ça rapportera encore un autre univers, une autre approche. Il y a même un morceau, il y a du triangle dedans, donc je laisserai les auditeurs aller farfouiller puis chercher dans quel morceau c'est.
Oui.
Et je veux que les gens me disent, je m'attendais pas à ça, et qu'ils soient agréablement surpris, en fait.
Tale of a Lonely Boy, ça, c'est le titre de l'album qui est un CD. Ça, on a compris que pour toi, c'était un objet important, du moins que l'objet CD c'était important. Les plateformes, ça reste quand même un support incontournable en 2024 pour un artiste. Pour toi aussi ou pas forcément?
Nous, concrètement, on y est parce qu'il faut y être, dans le sens où, entre guillemets, on est personne, quoi. Personne ne connaît vraiment notre musique. C'est vrai qu'on fait ton autoproduction, donc on commence tout juste à essayer de faire des scènes où les gens peuvent nous écouter. Nous, on aime bien travailler en autoprop pour être un petit peu les... seul décideur, entre guillemets.
Ouais.
On est sur les plateformes de streaming parce que maintenant, la musique, elle se consomme comme ça. Et l'histoire des playlists, l'histoire des recommandations comme ça, c'est vraiment inhérent à ce mode de consommation. C'est pas vraiment le mien. Je te cache pas que j'écoute pas, quand je vais écouter l'album ou quand je vais écouter un album, je l'écoute pas en playlist, hein, ou dans les playlists adjacentes. Je prends le temps d'acheter l'album et je l'écoute de A à Z. Dans l'espoir de trouver cette évolution, comme on l'expliquait avant.
Bien sûr, bien sûr.
Donc oui, évidemment, sur les plateformes de streaming, mais principalement, l'idée, l'objet en lui-même est fini à 100%, considéré comme fini à 100% dans la version CD.
Quentin Winter, on en arrive à deux questions par rapport à tes souvenirs et puis par rapport un petit peu... C'est des questions de cœur, hein, parce que parmi tous les endroits où tu as pu te produire, je voulais savoir quels sont selon toi ceux où la musique a été reçue avec le plus d'enthousiasme et pourquoi? Pour quelles raisons?
J'ai un souvenir récent des Rendez-vous de l'Herbe.
Oui.
Tremplin des Rendez-vous de l'Herbe, où déjà on n'a jamais joué devant autant de personnes. D'après l'organisation, il y avait pas loin de 2000 personnes, et déjà on a n'a jamais fait ça. En plus, les conditions techniques étaient incroyables. Et même si c'était un tremplin, eh ben, on a donné ce qu'on avait à donner. Et les gens sont venus nous voir après, à la fin du concert. Et vraiment, des étoiles dans les yeux, quoi. Et là, pour le coup, il y avait aussi des gens chez qui je n'aurais pas pensé que ma musique puisse passer, quoi. Donc, j'ai ce souvenir-là. Et donc, j'ai aussi le souvenir à la Nef, où même si c'était un one-man band, bah, le fait de voir autant de gens...
Parce que ça, c'était en première partie de Paul Personne à la Nef, c'est ça.
Oui, à la Nef, excuse-moi, c'était pas la première partie de Paul Personne. De voir autant de gens qui sont venus me voir à l'espace CD et puis me faire autant de retours incroyables, quoi. Moi, j'ai tous ces souvenirs-là qui sont gravés en mémoire. Et puis ça, plus l'enthousiasme de la campagne de financement, plus tous les petits mots que les gens m'envoient au quotidien sur les réseaux sociaux, moi, ça me touche énormément et ça nous motive à fond pour continuer, quoi.
Voilà, ben oui, ça rejoint l'autre question en pendant de ça. C'est vrai qu'il y a un retour des fans qui se fait de façon quasi automatique à partir de moment où, par exemple, le clip a été mis en ligne, c'est The Life on the Bright Side, il y a eu forcément des réactions. Quelles ont été ces réactions? Est-ce qu'elles ont toutes été enthousiastes? Est-ce que tu as eu des questions, des demandes, des choses particulières, ou est-ce que ça a été vraiment waouh?
Eh bien, il y a eu un bel effet waouh, parce que ben, les gens ne s'attendaient pas à ça non plus, tiens. Niveau visuel, Nicky a été surpassé, puis il a pu mettre en application plein de choses qu'il a accumulées pendant son passé de machiniste. Donc oui, il y a eu énormément de retours sur les réseaux sociaux, sur le fait que bah, les gens étaient, étaient conquis, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas eu de retour critique, positif ou négatif. J'ai pas encore... Alors, après, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Je pense aussi. J'ai pas non plus encore eu de retour sur l'album, mais c'est pareil, hein, je pense que ça va venir également.
Bien sûr.
Maintenant, du côté de Lucas, je pense qu'il faudra lui poser la question. Je ne crois pas non plus encore.
Très bien. Quel message, Quentin Winter, est-ce que tu voudrais envoyer aux auditeurs de l'émission Sweet Home Chicago, dont tous ne sont pas forcément branchés blues rock spécialement?
Eh bien, soyez curieux. La musique, c'est pas simplement un style en particulier. J'ai croisé des gens qui pensaient que dans un style en particulier, mais dans n'importe quel univers musical, hein, aussi bien musique traditionnelle qu'en irlandais, qu'en blues rock, qu'en jazz. Soyez curieux, parce que parfois, les mélanges de styles de musique, ça peut vraiment... transcender une pensée, transcender une émotion, et voilà, soyez curieux.
Quels sont tes projets pour la suite de cette année 2024? Faire vivre l'album, bien sûr, sur scène, je l'imagine, et après, il y aura une distribution? Est-ce qu'il y aura un vinyle prévu? Est-ce qu'il y a des dates de concerts particulières, des festivals?
Les dates, on commence à les rentrer là, donc je peux malheureusement pas trop communiquer dessus, parce que je les ai pas sous le nez. Pour ce qui est de l'album, oui, évidemment, le faire vivre le plus loin possible, pas simplement l'album, le clip aussi, envoyé dans les petits festivals autour de l'audiovisuel, etc., etc. Ensuite, alors sur vinyle, ça aurait été avec plaisir, mais hélas, on a épuisé toute la cagnotte, et l'album, comme tu l'as vu, il fait 1h04 à peu près, et il n'y a 15 titres, ça veut dire que...
Ça veut dire qu'il faut faire des choix cruciaux, il faut en enlever, effectivement, parce que... On va rappeler pour les gens qu'au-delà de 45, 46, 47 minutes grand maximum, un vinyle, c'est fini, quoi, c'est plein.
C'est double vinyle, ça nécessite donc des frais supplémentaires, ça nécessite également un mastering différent, voilà, pour les puristes, et c'est malheureusement de l'argent qu'on n'a pas, c'est un souhait. Parce que...
Ça représenterait peut-être aussi un prix de vente proche de 40 euros, quoi, qui devient un petit peu compliqué, quoi.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
J'ai une autre question, et ça sera la toute dernière question, Quentin, ce sera vraiment la toute dernière question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée, mais à laquelle tu voudrais quand même répondre? Ce sera le mot de la fin, Quentin.
Juste pour compléter la réponse d'avance, dans les choses à venir, on aimerait bien enregistrer une live session, donc en condition concert, avec Winter Blues Band, mais avec un invité supplémentaire qui est sur l'album et qui chante. Voilà, il y a un morceau où c'est pas moi qui chante, et... voilà, je ne sais pas si bon nombre d'entre vous l'auront entendu, parce que parfois la rythmique et l'instrumental derrière emmène un peu plus facilement l'oreille. Mais voilà, on aimerait bien faire des vidéos avec des invités. Moi, je veux partager la musique. Je veux pas simplement m'enfermer dans le trio, si tu veux.
Très bien. Ben écoutez, on a bien compris ce message. Ce que je souhaite à cet album Tale of a Lonely Boy, c'est que tu en vendes plusieurs milliers et puis que ça fasse plaisir aux gens, que ce soit à la fin des concerts ou dans les distributions traditionnelles. Et puis, bien sûr, j'espère te revoir sur scène très très bientôt, Quentin, sur la route du blues.
Et ben avec grand plaisir, Marc, et je te remercie énormément.
Et ben merci à toi, et puis encore bravo, parce que c'est un coup de maître, ce disque, je peux te dire.
Et ben merci beaucoup, vraiment. Ça me touche.
À très bientôt, Quentin, merci.
À très bientôt, Marc. Hey you.
When I open my eyes, I see. But what I see, the perfect definition of my happiness.
Voilà, c'était l'interview de Quentin Winter avec quelques extraits, bien sûr, de son premier album, Tale of a Lonely Little Boy, qui vient de sortir, vous l'avez bien compris. On a écouté en tout début de deuxième heure Tumbling Down, et puis là vient de se terminer le titre Love Is. Il y a eu beaucoup d'extraits, dont Furiosa, également The Weight of Things, Lazy Blue Line, All the Way, See the Life of Bright Side, I Remember, Underwater et Lulu. Et puis, bien sûr, des influences de Quentin Winter. On a pu entendre Nothing Else Matter et Orion de Metallica, Stairway to Heaven par Led Zeppelin, Traffic Jam interprété par Steve Ray Vaughan et Santana, et puis en fin d'interview, le morceau Grace de l'unique album du grand Jeff Buckley. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sweet Home Chicago. Salut, bye bye.